Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu Média et Culture au sens large, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, des super-héros et du pâté en croûte. Et je vous rassure, ce sera dans deux chroniques différentes. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu aux alentours de 10h20. À 10h, notre doublette niçoise Bertrand Chameroy et Eva Roque. Et dans quelques secondes, Charles Decamp pour le podium Audimat et le journal des médias. Notre infomédia, c'est l'apocalypse cognitive, rien moins. C'est ce que nous promet le sociologue Gérald Bronner dans son ouvrage aux presses universitaires de France, Les Puffs. Et vous comprendrez comment le smartphone est en train de tuer le chewing-gum, oui. Puis nos invités, le producteur Franck Sora, patron et fondateur de Carson Prod, qui a signé le meilleur score de fiction 2020 avec Muriel Robin. Il revient samedi avec La Lettre, présentée par Sophie Davant sur France 2, un programme français et ambitieux. Et puis ça plane toujours pour lui, Plastic Bertrand. Il vient non pas pour une compilation, mais pour son 10e album. Ça s'appelle L'expérience humaine. Et vous savez quoi? Même le journal Libération en dit du bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Pas de sortie de crise à l'équipe, la LFP accélère, Netflix va sauver Napoléon, mais pas la révolution. Mais
évidemment, on commence par les audiences qu'ont les Français regardées hier soir à la télévision.
Et bien après le carton de la semaine dernière, TF1 s'est à nouveau imposé très largement hier avec la suite de La Promesse. La série policière se maintient très bien sur une semaine avec 6 900 000 téléspectateurs au compteur. C'est 32,7% du public. Et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, La Promesse reste leader et prend même 3 points à 34% de part d'audience. Deuxième, France 2 pointe à 2 millions de personnes et 8,9% de part d'audience avec un nouveau numéro d'envoyé spécial. Tandis qu'M6 est troisième, juste en dessous des 2 millions avec le film 58 minutes pour vivre.
Culture Média.
Et puis Charles, avant les grands titres, une histoire étonnante, ça se passe en Suède.
Oui, un festival de cinéma a décidé d'innover, celui de Göteborg. Il refusait de se contenter d'une édition 100% numérique cette année à cause de la crise sanitaire. Alors il a eu une idée, proposer à une personne seulement, de regarder tous les films de la sélection, mais pas dans un cinéma. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Alors tout ça va avoir lieu dans un endroit très inhabituel.
Oui, en fait, il faut avoir envie d'aller sur la toute petite île de Paternoster, c'est au large de la Suède, sur la côte ouest. Je vous plante le décor. Hein. Vous, seul au monde, sur ce petit bout de terre inhabité, où il n'y a qu'un phare entouré de rochers, interdiction d'amener qui que ce soit, pas de téléphone ni de livre. Votre seul compagnon, le bruit des vagues, et 60 films, c'est-à-dire la sélection du festival. Vous avez alors 7 jours pour les regarder, et pour l'ambiance festival, ils ont quand même prévu d'installer un petit tapis rouge sur les rochers.
Et qu'est-ce qui leur est passé par la tête, en fait?
Qu'est-ce qu'ils ont fumé?
C'est ce que je me suis demandé. Alors j'ai pris mon plus bel accent suédois pour contacter le directeur du festival, Jonas Holmberg, qui m'a expliqué que c'était plus un clin d'œil à la pandémie qu'un Koh-Lanta du cinéma.
En fait, ça va être très confortable de séjourner là-bas. Vous aurez un bon lit, bien moelleux, de la bonne nourriture et des bons films, évidemment. Le challenge, ce n'est pas de survivre, de faire des choses dangereuses. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont tournés vers les films, le cinéma, souvent en guise de compagnie ou de réconfort. Nous, on s'est dit, pourquoi on ne pousserait pas l'expérience à l'extrême, en isolant une personne avec rien d'autre que des films?
Voilà, et pour des raisons de sécurité, le festivalier ne sera pas tout à fait seul. Hein. Il y aura une autre personne sur l'île, mais promis, ils ne se croiseront pas. Et il faudra qu'il tienne un journal de bord pour raconter comment il vit cette expérience.
Et comment le gagnant ou la gagnante va être choisi?
Mais grâce à un concours, en fait, il faut envoyer une lettre de motivation sur le site internet du festival. Tout le monde peut postuler, même vous, Philippe, Charles, si vous voulez.
Oui, ouais. Je ne suis pas sûr.
D'ailleurs, ils ont reçu plus de 10 000 candidatures de 50 pays différents. Et les films proposés ne sont pas qu'en suédois. Hein. Il y a une compétition internationale. Et si vous voulez tenter l'expérience de cette isolated de cinéma, vous avez jusqu'à dimanche pour postuler. Il faut le reconnaître, c'est surtout un joli coup de com' pour ce festival dont même CNN a parlé. Et nous aussi, on ne vous en aurait probablement jamais dit un mot sans cette idée un peu folle qui nous a bien plu.
Merci Louise Bernard.
Tout à fait autre chose, le ton se durcit dans le conflit qui paralyse l'équipe.
Ça fait une semaine que le quotidien est en grève et même si des réunions continuent d'être organisées, la direction et les syndicats semblent désormais se répondre par communiqué de presse. Les salariés du groupe ont publié hier une nouvelle lettre ouverte intitulée carrément « Qui veut tuer l'équipe ». Il reproche à la direction de n'avoir jamais eu l'intention de négocier, de refuser ce qu'ils appellent les mains tendues, ainsi qu'un scénario alternatif concocté par le comité économique et social de l'entreprise. Ils espèrent désormais pouvoir échanger directement avec l'actionnaire, le groupe Amaury. Cette demande est intervenue juste après la publication d'un communiqué de ce même groupe signé de son président Jean-Étienne Amaury. Il y explique une nouvelle fois la nécessité, selon lui, de s'adapter face à la crise que traverse l'équipe, d'être rapide et innovant pour exister, et il renouvelle sa confiance au patron de l'équipe pour mener à bien les négociations.
Et sport toujours, la Ligue de football professionnel valide le principe d'un appel d'offres pour les droits qu'elle a récupérés à la suite du défaut de paiement de Mediapro.
Oui, la LFP souhaite organiser une procédure accélérée. Elle veut remettre en vente au plus vite ses droits qui représentent 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais pas sûr que Canal+, qui est considéré actuellement comme le seul acheteur potentiel, pas sûr que Canal+, joue le jeu. Lui qui souhaite que l'appel d'offres, couvre l'intégralité des droits. Le groupe a fait savoir cette semaine qu'il souhaitait rendre ceux qu'il avait acquis et qui correspondent grosso modo aux 20% restants du championnat. On va y arriver.
Le focus programme du jour, c'est une nouvelle série de grands entretiens que la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, va lancer ce dimanche.
Cette fois, c'est Daphné Roulier qui est aux commandes de cette nouvelle salve de 6 épisodes. 6 épisodes où elle reçoit l'écrivain Alexandre Jardin, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot ou encore l'éditrice et ancienne ministre Françoise Nyssen, avec un thème directeur commun aux 6 entretiens, un thème que la journaliste a choisi, la résilience.
Ce qui m'a intéressé, c'est de donner la parole à des gens qui, eux, ont été confrontés à des drames et qui ont métabolisé la douleur, et qui l'ont sublimé, qui l'ont transcendé. Gérard Garouste a fait de la folie une œuvre. Françoise Nyssen a fait de la disparition, et pour dire les choses, du suicide de son fils, une école. Alexandre Jardin a fait de la folie de ses parents et de cette famille très dysfonctionnelle également une œuvre littéraire. Et Sylvain Tesson, comme il le dit joliment, a pris 50 ans en 10 mètres de chute. C'est des gens qui sont incroyablement inspirants, solaires, sensibles.
Daphné Roulier au micro de Louise Bernard. Comme les salves précédentes animées par Guy Laga, Chif Tréhard et Maïté Nabiraben, ces 6 rencontres se déroulent dans la pénombre. Seule la journaliste et son invité sont éclairés et un grand écran illustre certaines questions. Une simplicité qui attire l'attention sur l'essentiel, l'échange entre les deux protagonistes. Les deux premiers grands entretiens de Daphné Roulier avec l'artiste Gérard Garouste et l'écrivain Sylvain Tesson, c'est dimanche à 23h sur LCP.
Et ce soir, France 3 va rendre hommage à Georges Pernoud, disparu ce lundi.
La chaîne diffusera à 21h05 une émission spéciale baptisée Georges Pernoud, l'homme qui aimait la mer. Au programme, un documentaire et une sélection des meilleurs moments de Thalassa. De quoi permettre aux téléspectateurs de découvrir celui qui se cachait derrière le créateur et l'animateur historique de l'émission.
Netflix qui devient mécène de la Cinémathèque française.
Le leader du marché du streaming a annoncé hier un partenariat avec l'organisme en charge de la préservation, de la restauration et de la diffusion du patrimoine cinématographique français. Netflix participera notamment au financement de la reconstruction d'un monument du cinéma français, Napoléon d'Abel Gance, sorti en 1927. À partir d'images abîmées récoltées aux quatre coins du monde, la version longue du long métrage devrait être restaurée d'ici fin 2021.
Netflix toujours, il n'y aura pas de saison 2 pour la série française La Révolution, générique.
Le public n'y a pas trouvé son compte. Voilà ce qu'a expliqué le directeur des séries originales françaises de Netflix au site Allociné. Comprenez que trop peu d'abonnés ont donné sa chance à cette réécriture très libre de la Révolution française, lancée en octobre dernier. La série en 8 épisodes avait suscité un peu de curiosité à l'étranger, mais les critiques n'avaient pas été très tendres.
Là, c'est l'inverse. Enchère record pour un dessin de Tintin.
3 175 000 euros, c'est le prix auquel un dessin préparatoire de la couverture de l'album Le Lotus Bleu s'est arraché aux enchères hier. Heureusement pas arraché littéralement. Il avait été réalisé en 1936 par Hergé. L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée.
C'est même pas la couve, c'est un dessin préparatoire. 3 175 000. Et on termine ce journal en musique avec Lady Gaga. Oh, say can
you see. L'hymne américain chanté par Lady Gaga, c'était en 2016 lors du Super Bowl. Et la chanteuse va remettre ça mercredi prochain pour l'investiture de Joe Biden à Washington. C'est elle qui entonnera The Star Spangled Banner, c'est le titre de l'hymne. La chanteuse avait été extrêmement impliquée dans la campagne démocrate pour la présidentielle. Autre star attendue, Jennifer Lopez, qui se produira également devant le Capitole.
Merci beaucoup Charles Decan, qui se produira lundi pour un nouveau journal des médias.
À lundi, bon
dans
week-end.
Un instant, à lundi Charles. Notre info média du jour, on va parler du marché cognitif. Ça ne vous dit rien? Eh bien, on vous explique dans quelques instants avec le sociologue et auteur du livre Apocalypse cognitive, Gérald Bronner. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Que faisons-nous quand nous avons un peu de temps dans le bus, dans le métro, dans une file d'attente ou bien juste avant de nous endormir? Eh bien, la plupart d'entre nous a les yeux rivés sur l'écran d'un smartphone. Il suffit d'observer pour le voir. Enfin, si on veut bien quitter cet écran et regarder autour de soi. C'est ce qu'a réussi à faire le sociologue Gérald Bronner. Il s'est rendu compte que notre attention était captée par un flot d'informations et de contenus. Un flot qui capte notre attention dans une proportion encore jamais vue dans l'histoire. Le constat est particulièrement inquiétant car ce qui est en jeu, selon lui, ce n'est rien moins que l'avenir de notre civilisation. Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot et ce rapport aux écrans, cette captation de notre attention et leurs conséquences, c'est le sujet de votre dernier livre, Apocalypse Cognitive, publié par les PUF, les presses universitaires de France. Qu'est-ce que vous entendez par Apocalypse Cognitive ?
Oui, alors vous l'avez dit, c'est un livre qui est un peu inquiétant, qui essaye d'apporter de l'espoir aussi, mais rassurez-vous, je n'annonce pas la fin des temps. C'est-à-dire que le terme apocalypse signifie en réalité, selon son étymologie, révélation. Et qu'est-ce que c'est que cette révélation cognitive ? C'est tout simplement la mise en regard d'une part de ce que vous avez dit, c'est-à-dire nous n'avons jamais eu autant de disponibilité mentale dans toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps de vie que nous avons une fois qu'on a enlevé le temps de travail, le temps biologique du sommeil, etc. C'est-à-dire un temps, dans le fond, qui est le trésor le plus précieux de l'humanité, parce qu'on peut y puiser de grandes symphonies, des œuvres littéraires, des découvertes scientifiques formidables, mais aussi le pire de l'humanité potentiellement. Eh bien, cette disponibilité mentale, qui a augmenté de 8 fois, par exemple, par rapport au début du 19e siècle, donc vous voyez une progression vraiment géométrique de ce temps de cerveau disponible, comme disait M. Lelay, eh bien, est mise en regard par rapport à un autre fait tout à fait important aussi historiquement, qui est la disponibilité de l'information cette fois, qui elle aussi, eh bien, elle a progressé de façon titanesque. Un songer qui avait 150 exabits de données, ce qui est considérable, disponible en 2005, il y en avait 8 fois plus en 2010, et que dans les deux dernières années que nous avons connu, 90% de l'information disponible a été fabriquée. Donc voilà, ces deux éléments mis en regard eh bien, font que tout à coup, les traces numériques que nous laissons par notre curiosité, ce que nous recherchons par exemple sur Google, elles révèlent un portrait assez peu flatteur de l'humanité, parce qu'elles révèlent en fait nos obsessions. Et effectivement, dans cette cacophonie d'informations, nous avons tendance à aller chercher des informations d'un type particulier. Et puis ceux qui vivent, c'est-à-dire les journalistes ou même nous qui avons un compte Facebook, nous cherchons à attirer l'attention des autres. Mais il est évident qu'on va avoir la tentation de jouer sur ces obsessions. Donc peu à peu, je dirais que l'espace public est en train de dévisser vers ces obsessions collectives. Et c'est ça que j'appelle l'apocalypse cognitive.
Avant qu'on parle de ces obsessions et qu'on les détaille et qu'on les liste, notre civilisation risque de s'affaisser, dites-vous, en cause ce que vous appelez la dérégulation massive du marché cognitif. On va revenir sur la dérégulation massive, mais pour en parler, il faut savoir qu'est-ce que vous appelez le marché cognitif. C'est quoi ?
Le marché cognitif, c'est tout simplement une métaphore pour parler d'un lieu où s'échangent des idées, des convictions, qu'elles soient politiques, religieuses ou qu'elles relèvent de la connaissance scientifique, et qui sont en libre concurrence. Mmh. C'est ça la caractéristique de notre monde contemporain, c'est que toutes, si vous voulez, les modèles mentaux qui prétendent décrire le monde sont en libre concurrence, alors qu'auparavant, ils existaient conjointement dans des mondes sociaux qui s'évitaient. Aujourd'hui, par exemple, pour être très concret, eh bien, quelqu'un qui possède un compte Facebook peut aller porter la contradiction à un professeur de l'Académie nationale de médecine sur la question des vaccins, si bon lui chante. Mmh. C'est possible, et c'est ça que permet notre contemporanéité.
Pour résumer, l'un des grands champs de bataille contemporains, pour reprendre l'expression de Patrick Lelay qui parlait du Coca-Cola et des publicitaires, à l'époque il était le patron de TF1, c'est le temps de cerveau disponible, il s'agit de capter notre attention en flattant ceux de nos instincts auxquels il est très difficile de résister. Et pour ça, il y a un outil très puissant, l'écran, les écrans, et pour expliquer ce pouvoir des écrans, vous prenez une métaphore, un exemple étonnant, le chewing-gum. Vous commencez votre démonstration en disant « l'industrie du chewing-gum est en crise », racontez la suite.
Oui, parce que vous savez, le chewing-gum, c'est pas quelque chose généralement qu'on projette d'acheter quand on fait ses courses. C'est un achat opportuniste, c'est-à-dire on n'y pense pas. Et puis quand on fait la file d'attente, vous avez vu que les rayonnages nous proposent des confiseries dont le chewing-gum. Or, on s'est aperçu ces 10 dernières années qu'il y avait une chute vraiment drastique de l'achat de chewing-gum. Et la cause principale est que tout simplement, ce qui bénéficiait au chewing-gum avant, c'est-à-dire le fait qu'on s'ennuyait dans la file d'attente et qu'on était donc disponible mentalement à acheter quelque chose pour nous-mêmes ou pour nos enfants, souvent pour leur permettre de patienter, mais il se trouve que nous-mêmes ou nos enfants, nous n'avons plus besoin de patienter parce que dans la file d'attente, nous avons le nez rivé sur l'arme du crime idéal pour notre attention, qui sont les écrans, nos smartphones en particulier.
Ça c'est le vecteur, le contenu, on va en parler maintenant. C'est le contenu qui capte, c'est pas eux, pas tous heureusement qui peuvent être toxiques, l'offre a explosé. Pour comprendre,
offre pléthorique. Pour sortir du lot, vous allez encore prendre, et on va prendre avec vous, une métaphore. Vous parlez de l'effet cocktail.
Oui, c'est une notion qui vient d'un psychologue qui s'appelle Corinne Sherry, dans les années 50, qui s'était aperçu d'un phénomène qu'on connaît tous. C'est-à-dire que nous avons tous fait des soirées, des cocktails ou des fêtes, tout simplement. Et vous savez que quand vous êtes dans une soirée, ben, vous parlez avec des gens et vous avez l'impression que vous êtes concentré seulement sur la conversation. Mais il se trouve que votre cerveau intègre des informations qui ne traitent pas forcément consciemment. Vous ne vous en apercevez pas, sauf si ces informations sont d'une certaine nature. Par exemple, si votre prénom Philippe est prononcé, votre cerveau va vous dire en quelque sorte « Tiens, ça c'est intéressant pour moi ». Si le mot « sexe » est prononcé, de la même façon. Ou si un élément de conflictualité ou un élément relevant de la peur. Bref, toutes sortes d'éléments qui sont saillants dans cette cacophonie. Mais il se trouve que justement, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, nous vivons dans une cacophonie d'informations qu'on n'a jamais connues dans l'humanité. C'est comme si nous étions dans une cocktail partie mondiale, en quelque sorte. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui va se passer. Dans cette fête mondiale de l'information, cette cacophonie, il y a certaines informations qui vont retenir notre attention plus que d'autres. Et ça tombe bien, ça correspond exactement aux obsessions qui ont été déjà découvertes depuis les années 50.
Mais alors, en quoi est-ce un problème? Parce qu'on peut, à la limite, s'interdire de s'intéresser au sexe, mais on ne peut pas s'interdire de s'intéresser à son propre prénom. En quoi c'est un problème?
D'abord, rien n'est un problème, même le sexe pour moi. Je n'est pas du tout une position morale sur le fait.
Non, je ne parlais pas du fond, je parlais de la forme. En quoi est-ce un problème que les GAFA, que ces algorithmes essaient de retenir notre attention?
Eh bien, ça deviendrait un problème, et ça l'est déjà, à partir du moment où la proportion de notre disponibilité mentale qui va verser en quelque sorte vers des contemplations futiles et non productives, va détourner la part la plus précieuse de notre trésor, encore une fois. C'est dans ce trésor, ne l'oubliez pas, que nous avons toutes sortes de solutions qui vont se poser à l'humanité, comme la pandémie, l'épidémie. C'est dans cette contemplation d'objets intellectuels, ce qu'on pratique dans la science ou dans l'art, par exemple, que l'on va trouver des solutions, des propositions, une exploration du possible. Et donc, c'est une forme, le risque qui pèse sur nous, c'est pas la fin de la civilisation, mais peut-être un affaissement, en effet, c'est-à-dire moins de productivité intellectuelle, parce que, mon Dieu, nous passons par exemple un temps insondable à contempler des fictions. Et les fictions, c'est absolument formidable, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas, par exemple, vivre l'intégralité de sa vie dans des réalités virtuelles. Et c'est une autre menace qui pourrait peser sur nous.
On continue à parler de ce problème, apocalypse cognitive, même si le mot apocalypse n'est pas à prendre dans son acception moderne. Ça vient de sortir aux éditions PUF, les presses universitaires de France. C'est signé Gérald Bronner, il est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du sociologue Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, c'est son dernier ouvrage publié par les PUF, les presses universitaires de France. Et c'est assez rare pour être signalé, et ça me fait plaisir de le dire, il est classé numéro 7 dans les essais à la FNAC et 10 dans les 10 premiers au classement de livres hebdo, comme quoi on peut vendre des livres avec des choses très, très, très intelligentes et passionnantes. La peur, le conflit, le sexe, je reviens à notre sujet, ont toujours fait partie de ce que nous sommes. En quoi cela poserait-il problème aujourd'hui? En quoi est-ce une apocalypse cognitive?
Alors oui, pour bien faire comprendre, il faut être un peu concret. Et prenons par exemple la peur. La peur, c'est un sentiment très utile, parce que sans la peur, l'humanité aurait tout simplement disparu.
Évidemment.
Mais cependant, justement, par exemple, vous avez des dispositions intellectuelles comme la surestimation des faibles probabilités. Nous sommes comme ça, c'est un invariant mental. Quand il y a des faibles probabilités, généralement, subjectivement, on a tendance à les multiplier par 10 ou 15. Ouais. Alors pourquoi? Probablement parce que nos lointains ancêtres avaient des raisons, dans un univers très hostile, d'être un peu paranoïaques. Et ce sont sans doute les peureux et les paranoïaques qui ont mieux survécu que les autres. Et aujourd'hui, nous sommes les descendants de ces peureux. Seulement voilà, dans un monde qui est relativement sécurisé, mais par contre, où il y a pléthore d'informations, ça crée ce déplacement des débats publics que j'évoquais tout à l'heure vers la peur. Par exemple, en 2016, il y a une fondation qui a étudié les médias américains qui a montré que 40% des messages dans les médias américains avaient attrait à la peur, ce qui est quand même beaucoup. Ou par exemple, nous avons tendance à surestimer ou sous-estimer la distance d'un corps qui se rapproche de nous. Une voiture, par exemple. Alors, on pourrait se dire, pourquoi cette étrange affaire mentale, tout simplement parce que ça nous permet d'étaler plus vite. Donc c'est pour ça que certains disent qu'on est une espèce paranoïaque. Ça pose aucun problème en un temps, si vous voulez, où le monde est effectivement hostile. On a intérêt à surestimer les risques. Ouais. Mais dans un monde qui est sécurisé et où justement l'information va s'indexer sur la demande, ça révèle nos obsessions. ici la peur, là la sexualité, ou ailleurs le conflit. Par exemple, le conflit, je montre dans le livre que certaines personnalités comme Buba ou Finkielkraut ou Manuel Valls, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, eh bien, qu'est-ce qu'on recherche le plus, alors que ce sont des gens qui ont une œuvre, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais une œuvre tout à fait considérable, eh bien, ce que les gens recherchent le plus à propos de ces individus, c'est des moments de conflictualité. Par exemple, la bagarre dans l'aéroport d'Orly.
Vous venez de dire les gens, et ça en
nous, c'est-à-dire nous tous.
C'est ça. Qui est responsable? Les gens, les producteurs de contenu, qui est responsable de ça? Ces articles sur Internet dont les titres nous incitent à cliquer, qui est l'œuf, qui est la poule?
Eh bien, je dirais les deux, parce que vous aurez remarqué que j'évite les lectures trop manichéennes, hein, en termes de bien et de mal, et un peu caricaturales du monde. Bon, c'est-à-dire que, effectivement, les producteurs de contenu sont largement responsables, notamment quand ils utilisent ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire, en fait, de la manipulation algorithmique pour exciter les pentes les moins honorables de notre esprit.
Expliciter, c'est quoi ça?
Ben, par exemple, quand vous regardez une série sur une plateforme de vidéo, vous savez, vous commencez à regarder un épisode, ouais. Et puis à peine est-il terminé que déjà on enchaîne sur le deuxième. Hein, ben voilà. Ça, c'est pour exciter ce qu'on appelle l'incomplétude cognitive, c'est-à-dire votre envie de combler une question qui va être posée à la fin de l'épisode, qui est basée sur le suspense. C'est humain, on comprend les enjeux commerciaux qu'il y a là-dedans, mais on comprend aussi combien ça peut créer des formes de boucles addictives. Mmh. Quand vous avez des likes sur Facebook ou sur un réseau social, eh bien sachez que vous avez aussi une petite décharge dopaminergique qui accompagne cela, une satisfaction psychique qui est assez bien identifiée, qui peut faire de nous les dupes de ces observations permanentes que sont devenues les réseaux sociaux.
Et vous avez analysé d'autres manières qu'ont les groupes, les éditeurs de nous parler, et vous parlez de puzzle.
Oui, ben c'est ça. Par exemple, ben ça joue beaucoup sur cette incomplétude cognitive. Effectivement, si je vous dis 1, 2, 3, 4, vous allez penser à 5, en oui. quelque sorte. Vous allez compléter vous-même ce petit puzzle. Ben, nous connaissons tous ces sites un peu attrape-nigaud, parce que nous sommes fait prendre nous-mêmes, ouais. qui nous disent devinez les 5, je sais pas moi, les 5 faits les plus incroyables qui se sont produits dans la politique américaine. Vous n'aurez aucune idée du troisième, par exemple. Et ben, évidemment, ça excite notre curiosité. Et la caractéristique de ça, c'est que généralement, nous ressortons déçus. Mais en même temps, nous avons beaucoup de mal à résister à cela. Ouais. Ce qui est dangereux, c'est que les médias conventionnels, ceux qui font donc profession de diffuser de l'information, sont de plus en plus contaminés par cette logique numérique, par cette logique d'obsession. C'est ça le danger aussi pour les démocraties. Et on les comprend, puisque les médias ne peuvent survivre que s'ils arrivent à capter un peu de notre disponibilité mentale par le jeu des plages publicitaires, évidemment.
On parle de loisirs, genre les 5 aliments à ne pas manger si on veut faire un régime, on a tous vu ce truc-là, vous appelez ça l'attrape-nigo, dans les rédactions on appelle ça des putaclics, mais absolument. Parfois ça va beaucoup plus loin, on sait que la parole et le rôle du journaliste ont été affaiblis ces dernières années, il suffit de voir la manière dont Donald Trump s'est comporté avec la presse pour comprendre, ça existe également en France. Est-ce que cette dérégulation explique l'affaiblissement de la presse et du journalisme en particulier?
Oui, ben c'est même l'autre nom de l'affaiblissement de la presse, puisqu'auparavant, en terre ou de la communication, on parlait des gatekeepers, c'est-à-dire des gardiens du seuil, c'était des gens qui professionnellement autorisaient ou non une information à venir sur le marché public. Par exemple, une sale rumeur qui traînait sur un maire, dans toutes les villes, il y avait des sales rumeurs autour du personnel politique, ben, le journaliste local parlait ou pas de cette rumeur selon qu'il la considérait fondée. Il avait donc un rôle majeur. Mmh. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous, ben, nous sommes des agents d'information avec notre compte Facebook. Il y a autant d'éditorialistes en France que de comptes Facebook ou Twitter. Ouais. Et donc, évidemment, ça crée une pression concurrentielle avec des amateurs et des professionnels sur ce marché de l'information qui atteint un niveau qui n'a jamais été connu. Mmh. Le problème, c'est que cette pression concurrentielle, elle tend, par exemple, à faire diminuer le temps de vérification de l'information quand on est en concurrence et qu'on peut survivre seulement en captant du temps d'attention de nos concitoyens.
Gérald Bronner, vous plaidez pour une régulation du marché cognitif. Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce que c'est même réaliste?
C'est possible, c'est déjà fait en partie, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce que j'entends par régulation? Alors, la pire des régulations, c'est celle qu'on a vue, c'est-à-dire récemment, c'est-à-dire l'interdiction, la censure de certains comptes.
Genre, supprimer le compte de Donald Trump.
Oui, là, c'est quelque chose d'extrêmement violent, évidemment. D'ailleurs, c'est le spectre le plus aigu de ce qu'on peut faire en termes de régulation. Ça pose des problèmes, d'ailleurs, en termes de réflexion politique, parce que c'est une entreprise privée qui s'arroge des droits ou qui hérite en quelque sorte de droits de responsabilité qu'elle n'a pas demandé mais dont elle use tout de même. Mmh. Mais avant d'arriver à ce genre d'extrémité, on peut réguler par exemple en pensant à l'ordre d'apparition de l'information. Si vous voulez, l'achalandage des produits cognitifs dans le supermarché de l'information. Quand vous utilisez le moteur de recherche Google, je l'ai montré dans mes recherches, sur des sujets aussi triviaux que, je sais pas, l'astrologie ou le monstre du Loch Ness ou etc., ben vous trouverez majoritairement dans les 30 premiers sites des sites qui défendent la croyance plutôt que l'état de la connaissance scientifique. Si vous tapez vaccin danger, par exemple, vous allez immédiatement tomber sur des tunnels de propositions anti-vaccins.
Évidemment, si vous écrivez vaccin danger. Mais si vous écrivez vaccin, est-ce que vous tombez d'abord sur des sites anti-vaccins ?
Alors, plus maintenant, parce que précisément, il y a eu des régulations qui ont été faites par Google. Google et tous ces grands acteurs du net prétendaient ne pas administrer la vérité. C'est ce qu'ils m'ont toujours répondu, moi, quand je leur ai opposé les choses. Or, c'est faux. Ils éditorialisent, en réalité, l'information en proposant un ordre d'apparition de cette information. Et pire, par exemple, pour une plateforme comme YouTube, si vous cherchez les vidéos du climat, vous trouverez une majorité de vidéos qui sont climato-sceptiques, donc en rupture avec l'état de la connaissance. Donc vous voyez qu'il y a une éditorialisation, non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce que cette éditorialisation, elle est aveugle, elle est faite par la logique des algorithmes et de la popularité de certains contenus.
Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, très très rapidement, vous gardez toutefois espoir.
Oui, il faut garder espoir parce que si nous sommes un peu les traces que nous laissons, nous ne sommes pas que cela. Et il y a dans notre cerveau humain toutes les ressources pour à la fois accepter cette apocalypse cognitive et ne pas en être les esclaves.
Merci beaucoup Gérald Bronner. Apocalypse cognitive, c'est en librairie, c'est publié par les PUF. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, nous serons avec notre invité, le producteur Franck Saura. Il va nous parler de La Lettre sur France 2. Programme ambitieux, déclaration d'amour, demande en mariage, des chanteurs et chanteuses très connus, mais pas seulement. Parce que Franck Saura, c'est également Carson Prod, qui existe depuis 20 ans. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Franck Saura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes producteur, vous dirigez Carson Prod, que vous avez fondé il y a 20 ans. Vous avez produit plus de 1000 heures de programmes. Votre actualité, samedi en prime time, demain donc sur France 2, La Lettre. Prime événement présenté par Sophie Davant, une émission de variété avec des stars, mais pas seulement. C'est seulement le troisième numéro en deux saisons. Racontez le principe, Franck Saura.
Le principe, ce sont des téléspectateurs qui écrivent pour mettre des héros quotidiens anonymes à l'honneur et pour que leurs stars leur fassent des surprises.
Ils écrivent à des stars. Là, en l'occurrence, les célébrités, ce sera Carla Bruni, Hélène Ségara, Garou, Patrick Bruel, Luan, Patrick Fiori, Dadju et la capitaine de l'équipe de France de football féminin, Amandine Henry. Les célébrités ont choisi une lettre qui les a touchées. Et donc là, vous dites que vous avez volontairement choisi les héros du quotidien. On va entendre le premier exemple qui ouvre l'émission, c'est Patrick Fiori. Il a choisi Mathieu qui a écrit une lettre pour son épouse Lauriane. Elle est maman de deux petites filles. Elle est infirmière dans un EHPAD. Racontez quand même le dispositif technique. Lauriane vient à Paris. Elle ne sait pas qu'elle va participer à une émission de télé. Elle croit qu'elle vient faire quoi à Paris ?
En fait, elle croit qu'elle vient assister à une espèce de salon de jeux vidéo. Ouais. Et évidemment que les choses ne se passent pas tout à fait comme elle le pensait.
Elle se retrouve sur un plateau de télé avec du public et face à elle, Sophie Davant. Sophie Davant qui la présente comme une héroïne. Mais Lauriane se demande bien pourquoi.
Vous êtes tremblante.
Ouais, ouais. Voilà. Je ne comprends plus rien.
Bon, en tout cas, je peux vous donner un indice. Vous êtes une héroïne. Vous voyez de quoi je parle ?
Non.
Un ou une inconnue nous a parlé de vous. Et il vous a décrit comme une femme au service des autres, une femme énergique qui ne compte pas ses heures, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Est-ce que ça vous correspond ?
Bah oui.
Et ça vous fait pleurer ?
Bah oui.
Et pourquoi ça vous fait pleurer ?
Bah parce que...
Ça vous touche que quelqu'un ait pensé à vous de cette manière-là ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Je suis infirmière.
Et on voit que l'époque a changé et que le Covid est passé par là. La profession d'infirmière déclenche désormais des applaudissements. Pardon de poser la question, il n'y avait que des lettres d'infirmière ou c'est Patrick Fiori qui a choisi spécifiquement celle-ci, Franck Saura ?
En fait, non, il n'y a évidemment pas que des lettres d'infirmière. Il y avait une multitude de lettres, mais ouais. Je pense que l'époque a fait que Patrick, il a été influencé par cette femme qui est à la fois une femme exceptionnelle dans sa vie privée, mais qui en même temps, dans sa vie professionnelle, est une infirmière. Et c'est vrai que l'époque fait qu'on est plus sensible à cette catégorie professionnelle.
Voilà, je ne vais pas tout spoiler, mais Mathieu et Patrick Fiori vont chanter ensemble une chanson pour Lauriane. Lauriane va finir en larmes. Et Mathieu, il chante très très bien. Alors, dans la lettre, il y a des déclarations d'amour, d'amitié, des remerciements, mais parfois, ça va plus loin. Autre exemple avec Carla Bruni. Elle a choisi la lettre de Virginie qui s'adresse à Mathieu. Mathieu, sa profession, c'est
pompier.
Autre métier du quotidien, c'est une famille recomposée entre Virginie et Mathieu, avec des enfants chacun de son côté, puis un enfant ensemble. Sur le plateau, tous les enfants sont là, tous habillés en polo marin, et une petite fille va apporter une lettre à Mathieu.
Mathieu, je crois qu'il y a un petit message dans cette bouteille. Nous, on est très très curieux. Il va falloir ouvrir la bouteille.
Oui, je vais me rasseoir quand même.
Il vaut mieux, je crois. sait jamais.
Tu es tout pour moi depuis qu'on s'est rencontrés. Et ce soir, j'ose enfin te le demander.
Quelqu'un m'a dit qu'elle vous aimait très fort.
M'épouserais-tu alors?
Oui.
J'ai mon cœur qui s'emballe et j'ai l'impression que je vais tomber par terre, mais je sais qu'il faut pas.
Elle manque s'écrouler sur ses pieds, cette demande en mariage. Vous auriez fait quoi s'il avait dit non?
Ben, on aurait été très embêtés. Bon, enfin, on se doutait bien que, compte tenu de ce qu'elle nous avait raconté et de l'amour qui les unit, qu'a priori, ouais, ça allait être une formalité. Ouais. Voilà. En plus, aidé par Calabruni, je pense qu'on prenait pas de risque.
C'était au producteur que je m'adressais et que je m'adresse évidemment. C'est le troisième numéro de la lettre samedi. Quelle nouveauté, Franck Saura?
En fait, la nouveauté, c'est que l'émission se place essentiellement sur un plateau de télé avec un décor qui a été conçu spécialement pour l'émission, ouais, et non plus au Théâtre du Châtelet comme c'était pour les deux premiers numéros. Et puis surtout, on a demandé aux artistes de s'impliquer encore plus. Et en fait, ils ont chacun réécrit une chanson importante de leur répertoire spécialement pour l'anonyme qu'ils allaient fêter. Voilà. Donc en fait, ce qui est très émouvant et très étonnant, c'est que chacune des chansons de l'émission est vraiment écrite spécialement en fonction de l'histoire de la personne fêtée.
Lors de la première, c'était en novembre 2019 de la lettre, il y avait de très gros moyens pour une anonyme, c'était Corinne, je m'en souviens. Vous aviez organisé un concert surprise en plein air dans un square parisien au bord de la Seine. Il y avait une vingtaine de choristes habillés en blanc et c'est pas fini. Soudain a déboulé Marc Lavoine avec un micro qui chantait. Pardon cette question, combien ça coûte une séquence comme celle-ci? Est-ce que vous n'avez pas réduit aussi la voilure du point de vue financier?
Non, parce que d'abord, les séquences à l'extérieur subsistent.
Moi, j'ai vu l'émission, il y en a beaucoup moins.
Non, oui, mais parce que en fait c'est la conjoncture qui nous a obligés à faire ça, parce que vous êtes pas sans savoir que aujourd'hui c'est très compliqué de tourner à l'extérieur compte tenu des conditions sanitaires. Ouais. Donc on a un peu levé le pied et donc il y a plus que deux séquences, mais en revanche on n'a pas lésiné sur les mises en scène et le fait de mettre en relief chacune des séquences. Voilà, mais effectivement il y en aura peut-être plus dans la prochaine émission, mais en tout cas dans celle-là, voilà, on s'est contenté de séquences et demie.
On vient d'avoir une information, c'est qu'il y en aura une quatrième. C'est produit par Carson Prod. Le fondateur et président, c'est Franck Saura. Il est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Franck Saura, producteur, c'est le patron fondateur de Carson Prod. Il produit la lettre. Le prime événement de France 2, c'est demain samedi, présenté par Sophie Davant à 21h sur la 2. La première émission de la lettre, Franck Saura, avait bien marché. 2,34 millions de téléspectateurs, 12,5% de parts de marché. Le deuxième numéro était un peu décevant. 1 540 000 téléspectateurs seulement, 8,3% de parts de marché. Vous attendez quelles audiences entre les deux, ou vous souhaitez secrètement revenir au score initial?
Enfin, c'est pas secret, c'est qu'on souhaite revenir au score initial. Alors, effectivement, la deuxième émission était face à une concurrence très sévère, mais bon, on a toujours des choses en face de nous. Mais voilà, là, samedi, j'espère que la conjoncture est plutôt pas mauvaise, mmh, et que les gens vont s'arrêter sur cette émission. Donc, on sera très heureux autour de 12%, même si c'est un produit qui est très différent d'une émission du samedi soir, puisque tout d'un coup on s'intéresse à des gens anonymes et on est moins festif que ce qu'on a l'habitude de voir sur France Télévisions.
Alors c'est produit par Carson Prod, c'est un nom anglo-saxon, mais comme le nom ne l'indique pas, c'est une société française que vous aviez créée en 2001 avec Jean-Luc Delarue. Alexandra Redamiel, qui dirige les divertissements de France Télévisions, a demandé des formats français. C'est un format original ou c'est des droits que vous avez rachetés à l'étranger?
Non, c'est parce que Alexandra se fait fort de ramener sur France Télévisions, que ce soit sur France 2 ou France 3, des formats français, franco-français. Et donc, c'est une création que nous avons élaborée avec la société DMLS TV. On coproduit ce programme ensemble et on l'a créé ensemble.
Carson Prod a 20 ans d'existence, une société créée par vous, je l'ai dit, en avril 2001. Depuis cette date, vous avez créé plus de 1000 heures de programme, dont 150 prime time. Le prochain qui arrive, ce seront les Victoires de la musique, la 36e édition, ce sera le 12 février. Exit Daphné Burki à la présentation, mais un duo inédit, Stéphane Bern, qu'on connaît bien ici, et Laurie Tillman. Pourquoi ce choix ?
Parce que Stéphane est vraiment aujourd'hui le monsieur loyal de France Télé. Il a excellé le 31 décembre lors de la présentation du Prime à Versailles. Mmh. Et puis Laurie, la petite challengeuse qui monte. Et donc, on trouvait que c'était le couple plus emblématique du moment, capable de présenter les victoires.
Alors, deux catégories vont disparaître cette année des victoires de la musique. Et pour cause, Révélation scène et meilleur concert, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de concerts, beaucoup de scènes en 2020. Mais déboule une nouvelle catégorie, c'est le titre le plus streamé de l'année, dont on connaît déjà le vainqueur, et le voici. Foncez toute la night, vous connaissez ça, Franck Sora?
Vous savez qui c'est? On en a parlé.
Vous avez déjà entendu? Vous connaissez le nom de l'auteur ou des auteurs? Vous connaissez le titre ou pas du tout?
Ah ben je connais, enfin c'est Gradur, je connais le titre.
Ah, c'est exactement, Gradur et Us l'Enfoiré, et ça s'appelle Ne reviens pas, titre déjà streamé plus de 100 millions de fois, et c'est pas fini, ça va continuer, et donc ils seront, on le sait, eux seront récompensés, ça sera le 12 février. C'est également vous, avec Carson Prod qui produisait le site d'Action, les 300 cœurs, et également les comiques préférés des Français. Pourquoi je vous en parle? C'est en octobre, présenté non plus par Michel Drucker, mais par Laurence Boccolini qui avait quitté TF1 pour aller sur la 2. Même question que tout à l'heure, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est vous qui avez choisi de par vos relations avec Laurence Boccolini, l'animatrice, ou est-ce que c'est France 2 qui la mandate ou vous mandate sur cette émission? Comment ça se passe?
Oui, c'est-à-dire que même si c'est des nuances très, très infimes, avec Michel Drucker, on produit une émission qui s'appelle Le Grand Show de l'Humour. Mm-hmm. Mais Michel, on le sait aujourd'hui, a eu quelques gros soucis de santé et on avait quelques émissions à faire. Donc on a fait Les Comiques Préférés des Français. Et comme Laurence arrivait sur la chaîne et qu'on trouvait qu'elle avait un vrai potentiel parce qu'elle est très aimée des humoristes et qu'elle était très différente de Michel, voilà. Elle assure une espèce d'intérim avec une émission qui finalement elle incarne parfaitement, mais qui n'est pas exactement la même que celle de Michel.
Il y a d'autres projets dont vous pouvez nous parler qui vont arriver sur France Télévisions?
On est en travail, c'est-à-dire que les comics c'est notre émission récurrente. On travaille sur des formats innovants parce que c'est ce qu'on aime faire. On l'a fait avec Muriel Robin et I Love You Coiffure sur TF1 récemment. Ouais. Donc voilà, on essaye de proposer des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Donc voilà, on continue les 300 cœurs qui cartonnent. Mmh. Et puis on se concentre après sur toutes les autres émissions, surtout sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini.
Justement, alors, avec Jean-Marc Morandini, programme assez incroyable qui est annoncé sur le papier, si vous tenez la promesse, vidéosurveillance. L'idée, présenter des faits divers sous l'angle de la vidéosurveillance, je cite le dossier de presse, à partir d'images originales de véritables délits, remonter l'enquête et découvrir, grâce à de nombreux témoignages, l'histoire de ces crimes pris sur le vif. Un magasin qui se fait braquer va donner à Énergie 12 les images de vidéosurveillance plutôt qu'à la police?
En fait, elles existent, ces images, parce qu'elles ont été forcément données à la police, mais elles sont facilement accessibles. Donc, il y en a énormément sur le net, il ouais. y en a énormément. Mais... Bon. Donc, on trouvait que la matière, parce qu'on produit les émissions crimes, effets divers, et tout d'un coup, on trouvait que cette source d'images était ouais. hallucinante, parce que là, on est vraiment dans le réel, voit les choses, sauf que généralement, ces images ne sont pas décryptées, alors que nous, on va les décrypter avec des protagonistes et des experts.
Ça sera quand la diffusion?
On travaille sur le premier numéro qui, normalement, devrait être diffusé en février.
Merci beaucoup, Franck Sora. Vous êtes le patron de Carson Prod et le fondateur, producteur de La Lettre. C'est sur France 2, demain, samedi, présenté par Sophie Davant à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Culture Média, ça continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire sur le maître du cinéma d'exploitation. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Je ne sais pas dans quel état il est, le Bertrand. Notre invité, c'est Plastic Bertrand, de retour avec son 10e album, c'est L'Expérience Humaine. Même Libération en dit du bien, c'est vous dire. Et puis dans Les Indispensables, des super-héros, mais amoureux. Une alternative surprenante à la galette des rois, rien que ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.